L'ouverture au public peut vous poser des problèmes si vous faites pareil que moi. C'est évidemment l'ordre. Alors moi, je prends un temps bien précis au début pour spécifier mon contrat didactique. Contrat didactique, c'est-à-dire ce qui me lie avec les étudiants. Et je casse assez vite le rapport autoritaire parce que de toute façon, je fais un cours, le cours 6, il me semble, ou 7, vous retrouverez, sur la soumission à l'autorité. Donc je ne vais quand même pas, moi, user de stratagèmes d'autorité, c'est évident. Donc je leur explique que si moi je suis en train de parler en bas, c'est parce que je suis réceptacle d'une connaissance qui est qu'a priori ils n'ont pas, et c'est ça qui fait la légitimité et qui fait que je parle en bas plus qu'eux. C'est pas mon âge, c'est pas mon autorité, c'est pas la violence symbolique qui fait ça, ce qui fait que je les encourage à me tutoyer s'ils ont envie, s'ils me vouvoient, j'essaie de les vouvoyer, essayer d'horizontaliser un peu les problèmes, les rapports entre nous, quoi, de façon à ce qu'il n'y ait pas une espèce de gêne ou une espèce de morgue dans laquelle se complaisent assez vite les enseignants, il faut bien le dire, au moins en France, hein. Et donc moi, je suis content. J'essaie de faire des étudiants, des collègues en quelque sorte. Alors, évidemment, ils voient bien que je commence à être un peu vieux, mais il y a une sorte de connivence qui se fait. Et ce n'est pas autoritaire. En plus, je les encourage à essayer de… Je vois bien qu'ils essaient d'attraper les endroits où je pourrais dire des bêtises. Mais moi, je trouve ça super. Quand je les vois surfer sur leur ordinateur, je ne me pose pas la question de est-ce qu'ils sont sur un réseau social, est-ce qu'ils sont en train de, j'en sais rien moi, de se bécoter avec quelqu'un par interface. Je ne me pose pas cette question. J'essaie juste de leur donner suffisamment de challenge pour qu'ils aient envie d'orienter leur recherche non plus sur des petites interactions sociales comme ça, mais vraiment sur le contenu de ce que je raconte et qu'ils aillent vérifier. Donc j'ai fait un stratagème de jeu, vous avez peut-être vu, hein, je glisse une erreur volontaire dans chaque cours pour qu'ils puissent me prendre en flagrant délit éventuellement d'autres erreurs que je n'ai pas vues moi et que j'ai faites. Vous regarderez d'ailleurs dans les épisodes, vous regarderez dans les descriptifs, j'ai mis parfois des erratums, c'est les endroits où moi, en me regardant, ce qui est assez insupportable, je ne sais pas comment vous supportez d'ailleurs. Eh ben, il y a des erratums, c'est toutes les erreurs, les coquilles, les petites bêtises que j'ai pu dire en passant. Et je suis content quand les étudiants me les font remarquer. Ce qui fait qu'en fait, ils voient bien que je ne suis pas gêné d'être pris en défaut. Ils voient bien que par contre, je mets beaucoup de soucis à sourcer tout ce que je raconte et à être précis dans ce que je raconte. Alors, ben, je n'ai pas besoin d'exercer d'autorité. Et quand quelqu'un fait du bruit au fond, ce qui est gênant, ce n'est même pas pour moi parce que c'est tellement loin que je ne les vois pas. Souvent, ils dérangent les voisins et ça, c'est un peu plus ennuyeux. Donc, je les encourage à pas venir, à aller faire un tour ou à rester silencieux s'ils sont là. C'est un peu le deal. Donc je pose le deal, voilà à quoi ça les contraint d'être là, c'est qu'ils acceptent de passer mon examen. Mais je ne suis pas regardant ni sur leur présence. Et quand je vois l'amphi qui ne les emplit pas trop, je me dis que voilà, le challenge pour moi, ça va être de faire des cours suffisamment intéressants pour qu'ils n'aient pas envie d'aller ailleurs. Voilà. Et je me dis que c'est le meilleur moyen pour qu'ils soient là. L'ouverture aux journalistes. Alors j'ai marqué ça parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez des cours comme ça qui sont un peu unique, je dirais, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Je rends hommage à Guy Maître-Viron et son cours à Montpellier, Henri Brock évidemment et toute son école à Nice, et les cours de Denis Carotti à Marseille, il y en a tout un paquet. Il y a des journalistes qui se pointent et qui font parfois des reportages à charge, ou, enfin souvent très orientés, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont faire des éloges de ce qui se passe, même s'ils voient qu'un quart debout, voire même des fois ils ne voient rien du tout du cours, mais ils écrivent de loin. Je me suis retrouvé avec des articles absolument élogieux de gens qui n'étaient jamais venus. Voilà, c'est quand même stupéfiant. Et certains m'ont dit, est-ce que je pourrais venir à votre cours en tant que journaliste et puis poser des questions? Alors j'ai dit, bah, vous pouvez venir à mon cours, de toute façon, il est ouvert. Par contre, si vous posez des questions, vous posez des questions au même titre que tous les gens qui sont là, pas en tant que journaliste, quoi. Si vous voulez une interview journalistique, c'est dans un autre moment. Et encore, si votre journal n'est pas un journal crétinisant comme on en connaît tant. Et donc, j'ai tendance à ne pas répondre aux journalistes des journaux crétinisants. Voilà. Enfin, que je juge, moi, crétinisant. Mais je peux essayer de le justifier rationnellement, mais ce n'est pas l'objet ici. Un autre détail marrant. Henri Brock m'a toujours dit, tu sais, la prestidigitation, c'est dur à dire, hein, je le refais. La prestidigitation, c'est un vrai support de la pensée critique. Et il a complètement raison, Henri. Le problème, c'est qu'en cours, c'est ce qu'on pourrait appeler, pour faire une métaphore de physique, une sorte d'attracteur étrange. C'est-à-dire que je vous raconte l'anecdote suivante. Je traîne dans un bar un soir, comme ça, ce qui m'arrive pas fréquemment. Je traîne dans un bar, je tombe sur un étudiant. À chaque fois que je traîne dans un bar, je tombe sur un étudiant. J'ai brassé en 10 ans, en 12 ans, à peu près 4 500 étudiants. Donc évidemment, à Grenoble, où que j'aille, il y a toujours quelqu'un qui a vu ma tête en cours, et surtout dans les bars. Et donc, il y a un étudiant qui vient me voir, un peu éméché. Il me fait « Ah, et tout, je me rappelle de vous, voilà, c'était il y a 8 ans ou 9 ans. » Oh là là, alors je dis, bah de quoi qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, je crois qu'il allait me dire le matérialisme méthodologique, ou alors il allait, je sais pas, il allait me parler de, je sais pas, que Darwin, ça l'avait transpercé, ou bon. Et là, il me fait, non, je me rappelle de votre tour de magie sur l'opération chirurgicale à main nue que vous avez faite pour mimer les guérisseurs philippins. Alors je dis, bon, d'accord, et tu te rappelles rien d'autre? Il dit, non. Alors je me suis dit, merde, en fait, c'est bien la magie, mais ça marque tellement l'esprit que ça en fait finalement un gadget qui va rester dans l'esprit. Et donc j'ai renoncé à faire des catalepsies sur tréteaux et tous les grands classiques de la zététique, les pseudo-hypnoses, des espèces de happenings. J'avais mille idées apparaître dans un nuage de fumée au début de chaque cours. J'aurais pu faire plein de gadgets comme ça. Mais l'opération chirurgicale à main nue que j'avais mimée, je crois que c'était en 2008 ou 2009, là-bas au département des licences, bon, bah, ça avait été super réussi, hein, mais tellement réussi qu'une étudiante avait failli tomber dans les pommes, d'ailleurs. J'avais retiré des organes d'un. Enfin, vous retrouverez ça, c'est assez facile à retrouver, des méthodes comme ça. On a quelques camarades zététiciens qui s'amusent à le faire d'ailleurs en public en ce moment. Mais vous donnez l'illusion d'opérer quelqu'un en lui retirant de son ventre, par une plaie que vous avez créée avec vos doigts, des ulcères, des substances cancéreuses, etc. Et c'est bluffant, mais c'est une illusion. C'est une illusion. Mais comme le patient, lui, est allongé et que vous lui faites un petit peu mal, il a l'impression que vous lui faites quelque chose. Et donc, dans un contexte thérapeutique, c'est une splendide escroquerie. Enfin, c'est notamment aux Philippines, il y a toute une école évangélique aux Philippines qui se servait de ce genre de méthode. Et donc, en montrant ça, je marque tellement l'imagination des étudiants que je vois qu'après tout le cours est foutu. Donc, j'ai renoncé. À mon grand regret, j'ai renoncé. Je ne fais plus de magie en cours, du tout. Voilà. Des fois, je fais quelques petites tromperies, mais c'est très, très léger. Voilà. Majeur problème de cette ETC, donc au début, c'était une UE transversale. C'est-à-dire qu'il est, les étudiants ont le choix, ils sont obligés de faire un choix. Voilà. Donc ils ont un panel d'enseignements dans lequel ils peuvent choisir. Et je dirais que les enseignements transversaux sont un peu les ouvertures vers d'autres horizons pour des gens qui sont plutôt cantonnés à des études disciplinaires. Donc vous avez un peu deux modèles à l'université, le modèle d'excellence, on va dire, qui pousse les étudiants à, je sais pas, vous êtes en psycho, vous devez bouffer de la psycho le matin, le soir, la nuit. Tout le temps. Et vous avez un modèle qui vise à une construction un peu plus globale où on vous propose, eh ben, vous pouvez suivre un module qui est de l'archéologie, par exemple, alors que vous êtes en physique, ou vous êtes en psycho, et vous pouvez suivre un module je sais pas, sur l'histoire des médicaments. Et c'est extrêmement riche, ça, pour les étudiants, mais c'est raboté, donc c'est repoussé vers le soir, et parce que c'est les seuls horaires qui restent un peu disponibles et non disciplinaires. Donc, on se retrouve avec des cours qui sont de 17h30 à 19h30, ce qui est assez dommageable pour ceux qui travaillent. On oublie que les étudiants travaillent, pour certains, pour financer leurs études, ce qui est un peu. Enfin, ça pose plein de problèmes sociopolitiques intéressants, mais tragiques. Et donc, des étudiants sont obligés de fuir même la fin des cours pour travailler. Ça, c'est un problème pour moi. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Et donc, je vous disais ça parce que donc, ça nous renvoie le soir. Mais ces ETC n'empêchent qu'elles sont. Maintenant, on appelle ça des ETC, enseignements transversaux à choix, c'est le terme qui est depuis 3-4 ans là, accepté par tout le monde. Il y en a une trentaine, je dirais. Et donc, ils peuvent choisir dans ces contenus. Et ils ont une évaluation à la fin. Ça me désole parce que je suis assez contre l'évaluation normative classique. Tout ce qui est notes ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acquisition de compétences. Mais ça s'y prête peu. J'ai essayé d'élaborer des systèmes d'examen sur papier, sur table. J'ai essayé de développer des systèmes de QCM. Je ne suis jamais content de ce que j'obtiens. Je reviendrai au QCM parce que je me rends compte que c'est une méthode qui est quand même un peu moins injuste que le reste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que vous savez, les enseignants souvent se fient à la capacité littéraire des étudiants, leur capacité à s'exprimer. Sauf que la capacité littéraire et à s'exprimer sont des capacités qui ont tendance à s'approprier quand on est à la maison, c'est dans son giron familial qu'on acquiert ça. Ce qui fait que si vous n'avez pas le même substrat social, ben vous pouvez partir avec des grosses inégalités. C'est ce qui fait que, par exemple, l'orthographe est un marqueur social, mais qui est injuste, qui est fortement injuste. Donc j'essaie de ne pas être trop regardant sur l'orthographe chez les étudiants, parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne depuis qu'ils sont nés, tout simplement. Et donc le QCM, c'est un des moins injustes. Au final. Mais alors, j'ai essayé de faire en sorte, dès la deuxième année, je crois, vers 2005 ou 2006, je faisais en sorte de leur proposer un exposé, l'exposé d'un dossier. C'est-à-dire qu'en gros, je leur remets une question de type scientifique attenant au paranormal, aux pseudosciences, aux pseudomédecines, à ce qu'on veut. Mais à partir du moment où la question est de type scientifique et sur un sujet qui est encore en controverse ou qui est âprement discuté sur le marché cognitif de l'information. Et donc le tout, c'est de bien formuler la question. Et une fois que la question est bien formulée, en fait, presque tout sujet peut s'y prêter, si tant est qu'il ait un peu de corps, qu'il ait un peu de contenu. Et donc j'ai dû mettre une liste que vous retrouvez sur le Cortex de tous les sujets qui ont été traités depuis le début. Je ne sais pas, on doit être à 2000 ou un truc comme ça, ou 1500. Et il y a des trucs assez géniaux, hein. Il y a des trucs assez variables, ça donne plein d'idées. C'est pas toujours très bien traité, mais peu importe. L'effort est là, ils essayent, ils plongent dans le sujet, ils se mettent à 4. Alors au début, ils se mettaient à 2, puis à 3, puis les groupes grandissants. Moi, je n'ai pas d'heure de prévu pour les corrections des examens. Donc je me retrouve avec, quand j'ai un amphi de 400 étudiants, je sais pas, le dernier semestre, c'était 375 inscrits ou 400 inscrits, c'est-à-dire que j'ai 100 groupes. 100 groupes, c'est-à-dire 100 dossiers à corriger. J'ai à peu près, allez, une semaine et demie, parce que je gratte à l'administration, les pauvres, quelques jours de plus. Donc, je deviens fou. Et alors, avant, ce qu'on faisait quand il y avait peu de groupes, c'est que je mandatais des copains pour venir faire jury, des amis à moi, qui sont pointus, hein, sur les sujets. Et en fait, il y avait le dossier qui faisait la moitié de la note, avec des critères que je vous mettrai en ligne si vous voulez, qui sont très simples et que les étudiants ont à l'avance. Et il y avait des critères, il y avait une note sur 10 pour le dossier et une note de présentation publique. Comme ça, ceux qui se foiraient sur le dossier rattrapaient éventuellement s'ils présentaient bien. Et s'ils présentaient comme des bouses et que par contre le dossier était super, ça compensait un peu, vous voyez. Et donc ça, c'était plutôt chouette. En plus, on était un jury gentil, mais exigeant, voilà. Et donc c'était vraiment des moments superbes. À partir de 2009, la taille de l'amphithéâtre était tellement grosse que j'ai dû renoncer à la partie jury, ce qui me désespère. Maintenant, ce que je fais, c'est que les meilleurs dossiers, je les mets en ligne. Ce qui posera un problème si vous faites la même chose, c'est que si vous mettez un dossier en ligne comme ça, c'est une copie d'étudiant, ça pose des problèmes, ça peut poser des problèmes administratifs. Et surtout, si dans un des dossiers, vous avez quelqu'un, un étudiant qui craque et qui, je ne sais pas moi, tient un propos un peu corrosif sur un personnage qui est discuté dans le vivant, qui est discuté dans le dossier, bah vous pouvez vous prendre une plainte. Et ça m'est arrivé une fois, c'est-à-dire qu'un jour, la présidence a fait remonter, enfin m'a fait redescendre à moi l'injonction de quelqu'un qui disait qu'il se sentait diffamé dans un article. Et il avait raison. Et moi, je n'ai pas été assez attentif à ça, à cet endroit-là. Et donc, effectivement, c'était un petit peu diffamatoire. On a dû retirer le dossier. Au mieux, vous pouvez redemander aux étudiants de le corriger. Le problème, c'est que les étudiants, bah, ils barrent, quoi. Enfin, ils sont très volatiles et ils s'en vont bien souvent. Donc, les retrouver, ce n'est pas toujours facile. Et je n'ai que leurs adresses, leurs courriels. Je n'ai que leur courriel administratif Université de Grenoble. Donc, je ne peux pas me permettre après d'aller chercher de manière plus intimiste, quoi. Ce serait un peu pas très bien. Donc, de fait, je retire les dossiers. Ça m'ennuie. Une autre façon de faire en sorte que ces dossiers ne soient pas perdus, c'est un peu un challenge que je leur donne au début, c'est d'essayer de faire en sorte que leur dossier soit suffisamment bon pour qu'il puisse être cité dans un article de Wikipédia. Et c'est déjà arrivé. Et je suis très content de ça. Quand un dossier va plus loin et améliore la page Wikipédia, qui est une, bah, vous connaissez certainement, cette encyclopédie en ligne collaborative. Voilà. Donc l'évaluation, ces derniers temps, j'essaie d'y réfléchir fortement parce que j'y passe un temps fou et j'aime pas. Le mieux pour moi, ce serait de valider des compétences et de ne pas mettre de notes. Mais le système ici est complètement coincé là-dessus. Tout le monde est coincé sur la note en France. Il faut une note. Il faut une note. Oh, on ne sait pas pourquoi, mais il faut une note. Parce que la note ne sert à... Enfin, à part classer les gens, je ne vois pas à quoi ça sert. Jusqu'au moins en Master 2. Après, je ne sais pas, si en Master 2, il faut classer, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui devient, je sais pas, pilote de ligne. Effectivement, je veux bien qu'on... Quand je monte dans un avion, je veux bien... qu'on choisisse le meilleur, celui qui a eu les meilleures notes pour conduire l'avion. Ou si je me fais faire une chirurgie, je veux bien la meilleure chirurgienne du coin et pas la 43e à partir de la fin pour ne pas me faire opérer à l'arrache. Voilà. Mais à part ça, tout le reste du cursus, je ne vois pas quel est l'intérêt du classement. Mais bon, c'est un autre débat. Là, je réfléchissais, je vous disais, à des nouvelles façons de faire. Et notamment, une façon que j'aimerais bien mettre en place, je connais un collègue qui fait ça, Christian Graff, faire en sorte que ce soit les étudiants eux-mêmes qui, en partie, évaluent le travail des autres étudiants, mais de manière anonyme, qu'il n'y ait pas de lien d'intérêt, si vous voulez. C'est super compliqué, je trouve, à mettre en place, mais ça serait génial. Donc là, en ce moment, au moins, j'en suis à l'auto-évaluation, c'est-à-dire que le dossier, les étudiants l'auto-évaluent sur la base de critères que je leur donne à l'avance. Et donc, il n'y a pas de surprise quand ils ont une note. C'est-à-dire qu'ils se mettent une note qu'ils estiment juste. Et moi, je ne discute avec eux que s'il y a gros désaccord. Et croyez-le ou non, des vrais désaccords, ça n'est arrivé que, bah, je sais pas, allez, ça arrive une fois par semestre sur 100 dossiers ou 70 dossiers, 80 dossiers, même pas, je crois. La plupart du temps, le groupe se sous-note. Et donc moi, je leur propose soit d'être cohérents avec eux-mêmes et de se mettre leur note à eux, plus basse, soit de mettre la mienne, mais donc ils se soumettent à mon autorité, mais elle est plus haute. Généralement, ils optent pour la plus haute, ce qui est une incohérence mentale tout à fait étonnante, mais que je comprends et je pense que je ferai la même chose. Mais bon, en tout cas, ça permet d'avoir aussi des temps pour discuter avec eux. Je leur fais des retours, pour ça que ça me prend un temps fou, je leur fais des retours sur leur dossier. Donc voilà, l'évaluation, c'est un moment que j'essaie d'adoucir. Et un autre truc, j'ai aucun scrupule à mettre 20 quand toutes les consignes sont respectées. J'ai aucun scrupule à mettre 0 quand le travail est complètement plagié. Voilà, mais ils sont prévenus à l'avance. Et voilà.